présente Détox émotionnel, la cure détox du mental et de l'émotionnel pour retrouver la santé et s'épanouir en 12 étapes d'Habib Salehi, lu par Michel Hinderix avec la participation de Melissa Windahl. À la mémoire de mon frère, le Dr H. Mehrdad Salehi et à tous les esprits pionniers de la libre pensée. Le moindre pas fait en avant dans le domaine de la libre pensée et de la vie individuelle a été conquis de tout temps au prix de tortures intellectuelles et physiques. Toute espèce de pas, de mouvement, de changement a nécessité des martyrs innombrables. Rien n'a été payé plus chèrement que cette petite parcelle de raison humaine et de sentiment de la liberté dont nous sommes si fiers maintenant. Friedrich Nietzsche, Aurore, 1881. Préface.
Dans son tout premier article pour le site goop.com, le docteur Habib Salehi nous parlait de la vérité, et surtout de la difficulté à la dire. Il proposait une définition du mensonge tout à fait inhabituelle, expliquant que nous avons été élevés dans l'idée qu'il fallait faire passer la politesse avant l'intégrité personnelle et que de pieux mensonges valaient parfois mieux que la vérité nue. D'après lui, ignorer ses sentiments, refuser de les accueillir et de les exprimer n'est pas seulement malhonnête, mais aussi extrêmement nocif. Il y a des années de cela, j'ai commencé à consulter le docteur Salehi pour des problèmes médicaux sans lien apparent. Et il a d'emblée évoqué le sujet de l'honnêteté avant même de parler médecine. Pour lui, la maladie prend racine quand la vie manque d'authenticité et que les déchets émotionnels ne sont pas correctement traités. Lorsque je lui ai fait part des troubles dont je souffrais, des ovaires à la thyroïde, il a noté qu'il suivait le parcours du chakra de la gorge. C'est, m'a-t-il alors expliqué, une affection courante chez les femmes qui ne se sentent pas en mesure de parler, qui étouffent et refoulent les émotions douloureuses au lieu de laisser leur vérité s'exprimer. À l'époque, je considérais l'honnêteté comme une façon d'être ou un état d'esprit. J'ai maintenant compris que c'est bien plus profond. C'est se donner l'espace nécessaire pour vraiment ressentir ses sentiments et y rester fidèle à tout prix. Le docteur Salehi est devenu mon mentor dans bien des domaines, mais il m'a surtout appris à mener une vie authentique. C'est sans doute la plus belle leçon, la plus douloureuse et la plus passionnante aussi que l'on m'ait enseignée. Comme vous le découvrirez au fil de ce livre audio, le docteur Salehi apporte de la clarté à tous les aspects de la vie. Et avec la clarté vient la guérison. Affectueusement, Gwyneth Paltrow.
Avant-propos. La médecine moderne présente de nombreux avantages. Mais chacun sait qu'elle a aussi ses limites. Malgré les avancées techniques et les milliards investis dans la recherche, son approche reste largement inefficace dès lors qu'il s'agit de traiter les maladies chroniques et les troubles neurodégénératifs. Si les diagnostics se sont nettement améliorés depuis les années 1960, l'approche thérapeutique n'a quant à elle pas beaucoup évolué. Pour que la médecine progresse, pour qu'elle puisse relever les défis du futur, et traiter les maladies auxquelles nous sommes confrontés depuis plus d'un siècle, il semble évident que nous devons changer d'approche. Nous devons revoir de fond en comble notre vision de la maladie, sa nature, ses causes et son traitement. Compte tenu du vieillissement de la population et de la prévalence des affections chroniques, nous n'avons guère le choix. Nous avons besoin de traitements qui aillent au-delà de la chimie et de la chirurgie, sans quoi nos petits-enfants resteront confrontés aux mêmes troubles chroniques que leurs arrière-grands-parents. Une telle approche exige de bousculer bon nombre d'idées établies sur la biologie et la médecine. Il faudra oser remettre en question l'incontestable, y compris certaines notions intouchables, au risque d'être taxées de charlatanisme. L'histoire de la médecine le prouve. C'est ainsi que des avancées majeures ont été rendues possibles. Nous devons donc jouer un rôle de défricheur dans un domaine où s'écarter de la doxa, même très légèrement, peut ruiner une réputation et même anéantir une carrière. C'est pourtant le chemin qu'il faudra tracer si on veut que l'humanité et la médecine est une chance de progresser. Toutes les grandes découvertes de la civilisation, surtout dans le domaine des sciences et de la médecine, sont le fruit d'une intuition. Cette intime conviction du chercheur qui, sans explication rationnelle, est néanmoins persuadé que la particule, le processus, le principe énergétique ou le traitement qu'il cherche existent bel et bien, malgré l'absence de preuves ou d'études préalables. Suivre son intuition, c'est voir l'invisible avant qu'il apparaisse clairement aux yeux de tous. C'est aussi résister à tous les défaitistes qui en appellent au réalisme et vivent confinés dans les limites de leur perception sensorielle. Seuls les hommes dotés d'une grande intuition et d'un esprit courageux peuvent changer notre vision de la vie en prouvant que l'impossible est possible. Ignaz Semmelweis était de ceux-là. Ce médecin du XIXe siècle était fermement convaincu qu'un facteur invisible, aujourd'hui connu sous le nom de bactéries, provoquait la mort de milliers de parturientes. Il insistait sur le fait qu'un simple lavage des mains avant une opération chirurgicale ou un accouchement diminuait fortement les décès postpartum dus aux infections et aux fièvres puerpérales. Il fut impitoyablement humilié par le corps médical et perdit même son emploi pour avoir proposé cette pratique qui tombe désormais sous le sens. La plus grande université de Hongrie porte aujourd'hui son nom. Quant au chimiste russe Dimitri Mendeleïev, il mit au point dans les années 1860 le tableau périodique des éléments qui classifiait tous les éléments de l'univers dans un ensemble logique et cohésif. Le tableau comprenait l'or, l'argent, l'argon, le néon, l'hélium et tous les autres minéraux, métaux et gaz connus à l'époque. Il représentait une avancée considérable pour les sciences, mais une faille subsistait. Là où il n'avait pas trouvé la substance qui devait logiquement relier deux éléments déjà présents, Mendeleïev avait laissé une case vacante. Le tableau fonctionnait très bien pour certains types de recherches, mais ses détracteurs ne manquèrent pas de pointer du doigt les cases vides. On ne connaissait à l'époque aucun élément ayant la masse atomique nécessaire pour combler les vides de façon cohérente. Quand on le questionnait à ce propos, Mendeleïev répondait que l'existence de ces blancs ne prouvait pas que l'élément correspondant n'existait pas. Il disait simplement qu'il fallait poursuivre les recherches. Dimitri Mendeleïev avait eu l'intuition de certains éléments jusque dans leurs moindres détails, alors que rien de tangible ne prouvait leur existence. Tous ont été découverts depuis, et le tableau est aujourd'hui complet. Mendeleïev nous offre ainsi l'exemple magistral d'une idée qui prend vie parce que son inventeur est resté concentré sur la vue d'ensemble sans s'arrêter sur les détails. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Citons pour finir le chimiste allemand Friedrich August Kekulé. En 1865, il fit un rêve. Il voyait des atomes danser en se reliant les uns aux autres. Au réveil, il dessina l'image de ses songes. Dans un autre rêve, il vit les atomes danser en formant des chaînes circulaires qui ressemblaient à un serpent se mordant la queue. Au lieu de douter de sa vision, il suivit son intuition pour finalement découvrir que ces images oniriques représentaient presque à la perfection la composition chimique et la structure cyclique du benzène. Semmelweis, Mendeleïev et Kekulé ont su faire confiance à leur intuition. Ils ont cru en l'invisible. Et ils ont eu raison. Aujourd'hui, une force tout aussi puissante et invisible est en cause dans les maladies chroniques. Il reste encore à le reconnaître et à l'intégrer au traitement. Cette force, c'est la conscience. La conscience humaine varie d'une personne à l'autre, mais elle est toujours faite de pensées et de sentiments, conscients et inconscients, qui touchent à tout ce qui constitue notre vie. Le travail, les relations, la vision du monde, et l'image de soi. Chacun possède une fréquence énergétique qui lui est propre, générée par les pensées et sentiments individuels. En pénétrant chaque cellule du corps, cette fréquence joue un rôle majeur dans la santé.